talmudique. Pessah commence par une rencontre. La rencontre de la farine et de l'eau vive dans un plat de terre. Pendant la semaine de Pessah, toute pâte fermentée est proscrite, comme au temps où Moïse fuyait la terre de Pharaon en toute hâte. Nos ancêtres n'avaient pas permis au pain de prendre son temps. Et le pain aime prendre son temps. C'est la première chose que tu dois apprendre aujourd'hui. Le pain est un mélange de farine et d'eau, mais c'est le temps qui les lie, qui les fait tenir ensemble. Le temps pour se transformer, se bonifier, le temps pour lever, le temps pour devenir le pain. Le monde vient en vous si vous savez le laisser venir. Voici venu le temps de l'urgence. Le pain de Pessah est ce pain de l'urgence auquel le Saint béni soit-il n'a pas laissé le temps de devenir pain, le pain levé que nous mangeons le reste de l'année. L'urgence que voici de quitter maintenant la terre d'Égypte où nous sommes en esclavage, l'urgence de nous mettre en marche à travers le désert. Si l'azim n'a pas la saveur du temps qui lui fait défaut, il a le goût de la liberté. Chaque année, en préparant la Pâque, en partageant le pain de la hâte, nous retrouvons cette saveur entêtante et nous nous remettons en marche. L'urgence de marcher revient, la liberté n'est jamais achevée. Monsieur le grand rabbin de France, bonjour.
Bonjour.
Raïm Korsia, c'est un très grand plaisir de vous retrouver dans Talmudic, qui a aussi ses traditions, puisque vous êtes venu pour deux des trois fêtes de pèlerinage, Shavuot et Sukkot, et vous voici pour la troisième fois pour la fête de Pessah, appelée aussi Pâques juive, qui commencera vendredi soir prochain. Elle dure 7 jours en Israël et 8 jours dans le reste du monde, et s'ouvre par la nuit du Seder. Ce rituel réunit famille et amis autour d'un plateau hautement signifiant, puisque les aliments qu'il contient symbolisent l'esclavage et la libération du pays d'Égypte. Sortie d'Égypte, qui est le véritable socle métaphysique du judaïsme, son événement matriciel et fondateur, au point que Dieu lui-même se définisse comme le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Texte commenté par le prophète Jérémie, qui définira le juif, c'est-à-dire l'homme universel arrivé à maturité éthique, selon la formule Lévinas, comme l'homme libre et celui qui libère tous les hommes de leur esclavage. Et en lisant ce texte qui inaugure le roman de Jean-Philippe de Tonnac, sobrement intitulé Azim, j'ai pensé à d'autres pains qui traversent le texte biblique et ses commentaires. Et tout d'abord, un pain qui s'appelle le Lechem Apanim, c'est-à-dire le pain des visages. Et l'une des significations du mot visage, panim en hébreu, est le fait de tourner la tête pour regarder autour de soi, lifnot. Le visage, nous disent Sander et Trenel dans leur dictionnaire, est la partie du corps qui se tourne dans tous les sens pour regarder les différentes faces du monde. Ainsi, le pluriel de panim, le visage est toujours au pluriel en hébreu, n'exprime pas seulement le visage lui-même, mais les différentes faces, les différents aspects du monde qu'il peut envisager. Ainsi, avoir un visage, c'est ne pas être indifférent aux événements du monde. Prendre le temps de se préoccuper du monde et être attentif à ce qui advient, peut-on ajouter avec Rashi, qui entend dans le mot « panai », mon visage, le mot « pnai », qui veut dire « libérer du temps pour quelque chose ». Vers quel visage du monde, Raïm Korsia, en tant qu'individu, ou comme grand rabbin de France, vous tournez-vous particulièrement aujourd'hui? Quel est le visage pour lequel il est urgent, selon vous, de libérer du temps? Et à quoi vous inviteriez à méditer dans ce céder de Pessah?
C'est le visage de celui qui n'a plus de visage, qui n'a pas encore de visage, celui qu'on ne connaît pas encore, ou celui qui se cache, que la violence du monde cache. C'est ceux qui n'ont plus de langue pour parler, de main pour agir, comme dit le psaume, de pied pour aller. Donc Dieu pour voir, d'oreille pour entendre. C'est ce visage qu'on ferme à notre vision. C'est, pour reprendre les mots de Chanteclair dans le roman de Renard, « Maudits soient les yeux fermés ». Les yeux qui se ferment, un peu comme le soir de Pâques, on parle de cette 9e plaie d'Égypte, le Rocher, l'obscurité, qui n'est en réalité que l'obscurité que les Égyptiens produisent en fermant leurs yeux sur la souffrance des Hébreux. Donc le visage vers lequel on va, c'est celui qu'on ne connaît pas encore. Et c'est intéressant de le faire revenir au pain. Parce que justement, j'ai bien aimé dans ce texte Azim, l'idée que le pain c'est l'eau, c'est la farine, mais c'est aussi un savoir-faire de l'homme. Le temps, certes, mais on pourrait rajouter un savoir-faire de l'homme. Un peu comme le vin. Le vin, c'est du raisin, de l'eau.
Et du temps.
Du temps, mais un savoir-faire de l'homme. Mmh. Et vous remarquez que ce sont ces deux éléments, le vin et le pain, qu'on retrouve dans le judaïsme et d'ailleurs aussi dans le christianisme, comme étant les éléments sur lesquels les hommes vont apporter une bénédiction particulière qui rend grâce à Dieu, parce qu'il y a un risque majeur que l'humain se prenne pour Dieu qui crée quelque chose de différent. Dieu n'a pas fait couler des fleuves de Bordeaux, des fleuves de Bourgogne, des fleuves, puisque vous êtes, c'est une raison chère à votre cœur, des fleuves de Gewürztraminer en Alsace. Non, il a mis du raisin. C'est le génie des hommes qui a créé ça. L'homme, à ce moment-là, pourrait se dire, mais je suis quand même comme Dieu. Là, on lui dit, attention, remercie Dieu de ce qu'il t'a donné. Même chose pour le pain. On prend des céréales, la farine, de l'eau, et on fait un travail qui change le produit. Donc, c'est à la fois cet engagement des hommes pour améliorer la création que Dieu donne, mais en même temps la reconnaissance permanente de l'homme envers Dieu qui lui a donné à la fois les éléments matériels, l'eau et la farine, mais aussi le génie pour pouvoir améliorer sa création.
Alors, ce génie et cette question du pain et cette liberté n'est pas évidente. Les chemins de la liberté ne sont pas aisés. Lors de son séjour dans le désert, le peuple hébreu ne fut pas toujours serein. Il doute. Il regrette, il fantasme un passé doré, il a même la nostalgie, nous dit le texte, de choses qui n'ont certainement jamais existé. Il se souvient, dit le texte, du poisson qu'il mangeait gratuitement en Égypte, des concombres et des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Enfin, on pourrait presque dire toute une recette de chouchouka. Maintenant, ajoute-t-il, nous sommes exténués, nous manquons de tout, point d'autre perspective que la manne. Et le texte dit que les enfants d'Israël eurent la manne devant les yeux, matin et soir, c'est Rashi qui le dit, au point qu'ils entrèrent dans ce que nous pourrions appeler aujourd'hui un délire de persécution, puisqu'ils commencèrent à voir la manne avec des yeux qui les regardaient. Et le texte dit, Vehaman, la manne avait des yeux. Un jeu de regard étonnant qui intéressera sans aucun doute tous les disciples de Freud, quelle que soit leur obédience, mais les commentateurs ajoutent que la manne est une épreuve. Car à la fois elle est répétition de l'identique jusqu'au dégoût de la vie et en même temps question qui peut apporter désir et sens de la vie parce que la manne en hébreu, ça signifie la question. Manne, c'est qu'est-ce que c'est, comme vous le savez. Et pendant 40 ans, le peuple hébreu du désert a mangé de la question. Extraordinaire. La fête de Pessah et cette nuit de Pascal en particulier sont ainsi le temps où on se doit de poser des questions, un temps privilégié de retrouver la force du questionnement pour donner du sens à sa vie et produire le temps épanoui de cette vie. Mais questionner n'est pas simple, monsieur le grand rabbin, surtout dans les moments difficiles qui parfois paralysent la dynamique de nos réflexions. Que dites-vous à une communauté parfois fatiguée qui vient vous demander non pas des réponses mais des questions?
Bon, revenons au sens des mots, c'est plus amusant. Si le pain, c'est la question. Quand on est copain,
oui.
Copain, c'est-à-dire qu'on partage le pain. Étymologiquement, c'est ça le mot.
Oui.
Copain, c'est nous partageons le pain. Autrement dit, nous partageons le questionnement. Le questionnement, il est légitime quand on est seul, il est productif quand on est à deux. Donc, le principe même de Pâques, c'est celui qui a faim vienne et mange. Donc, on va partager les questions. Parce que le bon élève dans le judaïsme n'est jamais celui qui a les bonnes réponses. Ça s'appelle un dictaphone. Quelqu'un qui restitue les réponses qu'on lui a suggérées. Le bon élève dans le judaïsme, c'est celui qui pose les bonnes questions. C'est-à-dire que sur un ensemble bien présenté, il va trouver la faille qui oblige à repenser l'ensemble du système. C'est une des spécificités du judaïsme dans l'histoire. L'histoire fonctionne avec des avancées et des questionnements qui sont capables de remettre en cause l'ensemble d'un système qu'on croit établi. Et je crois que le judaïsme, c'est ce système qui remet en cause ce qui est établi. Qu'est-ce qui nourrit l'homme? Le pain. Et bien, le judaïsme vient vous dire, tu sais, d'abord, l'eau à la lechem levado yichi adam. Ce n'est pas qu'avec le pain que l'homme vit. Alors on dit oui, mais c'est bien le pain. Oui, t'as raison. Mais tu sais quoi? Si tu veux vivre, t'as pas besoin du beau pain, bien doré, bien brioché, que tu peux, avec lequel tu peux tartiner. Non, tu vas prendre un pain azim. Si c'est vraiment ton problème que de manger, alors on va te donner un pain qui a pas le temps de monter. C'est-à-dire un pain qui va que te nourrir. Et tu vas voir que ça marche aussi bien. Donc, si tu rajoutes la notion de bon pain, de beau pain, c'est que tu y trouves un bonheur supplémentaire que le simple fait de mourir. Donc c'est l'inverse d'Harpagon. qui lui dit « on ne vit pas pour manger, mais on mange pour vivre », nous lui dit « non ». Et l'un et l'autre, c'est faux. Si on ne fait que vivre pour manger, à quoi ça sert? Si on mange que pour vivre, c'est pas possible. On doit trouver du sens. C'est ce que disait Bossuet, de manière extraordinaire. Vivre, c'est consommer du temps. C'est-à-dire que vivre, c'est consommer, c'est-à-dire ingurgiter, incorporer du temps, comme pour le pain, mais en même temps du sens. Et on voit bien d'ailleurs que le sens dit tout. C'est à la fois la direction, c'est le sens, c'est-à-dire la vocation d'un mot, c'est en même temps le sens, l'un des cinq sens gustatifs, par exemple le goût. Donc on voit bien que quand on cherche à questionner un mot, une origine, on a déjà avancé dans la question. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'a pas apporté une réponse à un problème qu'on n'a pas fait avancer la question. Et on voit bien dans le texte, vous pouvez écrire une somme absolue sur une question, et à un moment quelqu'un va venir et va vous dire « oui mais tel endroit, vous dites ça, mais et si on le voyait différemment ?» Et c'est vrai. Et je me rends compte tous les jours que des textes qu'on a appris quand nous étions petits, au Talmud Torah, on les a jamais remis en question. Ce sont ces textes les plus dangereux. Parce que ce sont des textes qui sont tellement automatiques à nos esprits qu'on s'interdit de les questionner à nouveau. Et ben c'est ceux-là qu'il faut questionner.
Et c'est ça que vous enseignez à la communauté qui vient oui. vous questionner oui. sur la question, c'est-à-dire mais reprendre, pas, relire.
Relire, mais pas dans une vocation de rupture avec le passé. Parce que, et c'est la fin du Deutéronome, c'est très intéressant, on nous apprend à ne pas accepter une autorité absolue. Et puis à la fin du Deutéronome, Moïse nous dit, je crois que c'est chapitre 32, « She'al avicha ve'agetra, interroge ton père ». Ça veut dire les anciens, et c'est la suite du verset. « Tes anciens, ils te répondront ». Interroge ton père, il te racontera, tes anciens, ils te répondront. C'est-à-dire qu'une fois qu'on t'a appris à te poser des questions, donc à remettre en question ce que les anciens t'ont appris, on te dit, mais tu sais, juge-toi sur l'épaule de leur expérience. Leurs expériences ne sont pas inutiles à ce que tu vas vivre. Et il n'y a aucune nécessité de revivre ce qu'ils ont vécu, parce que tu pourrais juste capitaliser leur expérience. Finalement, ni vous ni moi n'étions à la sortie d'Égypte. Ni vous ni moi. Enfin, je ne pense pas, malgré votre belle barbe blanche, je ne pense pas que vous étiez à l'époque de la sortie d'Égypte. Et pourtant, nous sommes capables, l'un et l'autre, de raconter la sortie d'Égypte comme si nous étions. Pourquoi ? Parce que la transmission d'expérience nous a rendus pratiquement des contemporains. Et je crois que cet objectif d'être contemporain avec les autres, c'est-à-dire de partager le temps, elle est aussi dans la vocation de manger le pain ensemble, d'être copain. En fait, on ne peut être contemporain qu'avec des copains.
Alors ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que le Baal HaTourim fait remarquer que cette manne, qui veut dire la question, qui est un pain du ciel, donc fait partie de cette catégorie des pains qu'on pourrait revisiter à travers la Bible, elle s'appelle Lechem Min HaShamayim, le pain du ciel, et les initiales de Lechem Min HaShamayim, c'est Lama, qui veut dire pourquoi, qui pose la question. Et j'ai toujours fait remarquer que lorsqu'on dit « voici la manne », c'est-à-dire « voici la question », on dit « zeman ». Et « zeman » écrit le mot « zman », qui veut dire « le temps », de manière très très précise, exactement comme vous le dites, c'est-à-dire que manger, dans la citation de Bossuet, c'est pas simplement consommer du pain, c'est consommer du temps.
Et du
si ce temps, et si le pain que l'on mange est l'occasion d'une question, pour goûter quelque chose qui va nous donner du sens. Et là, comme vous venez de le dire à l'instant, le mot « goût » en hébreu, « ta'am », veut dire à la fois le goût de ce que l'on goûte, mais aussi le sens.
Il veut dire aussi la cantillation qu'on met sur les textes et qui donne du goût, c'est-à-dire du sens au texte. Mais pour plagier Tintin, quand l'ama pas content, l'ama craché, c'est-à-dire que quand la question nous insupporte, alors on est obligé de cracher. Symboliquement, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on rejette l'autre. On n'avance pas dans la conscience de quelque chose. Ça m'a toujours amusé, cette phrase. Quand l'ama pas content, l'ama craché. C'est-à-dire que, finalement, quand quelqu'un n'arrive pas à trouver une possibilité d'avancer avec quelqu'un d'autre, il est dans le rejet de ce qu'il est, dans la négation de ce qu'il est. Et moi, je pense que le judaïsme nous apprend exactement l'inverse à travers l'image du pain. Le pain, c'est, vous savez, d'ailleurs, il y a un texte du Talmud très intéressant qui dit que l'arbre, c'est une des interprétations. Que l'arbre de la connaissance du bien et du mal serait le blé. Pourquoi ? C'est très intéressant. Parce que le blé, c'est l'aliment que l'enfant commence à consommer qu'à partir du moment où il arrive à comprendre le ça, c'est-à-dire ce qui sort, ce qui n'est pas lui et ce qui est lui. À ce moment-là, c'est concomitant avec cette progression dans sa conception du monde, des autres en tout cas. Donc le pain, c'est la conception entre les autres et moi, donc symboliquement entre le bien et le mal, parce que je suis le bien, les autres... Et on lui dit non, c'est pas ça que tu vas faire. Tu vas justement comprendre que les autres sont aussi une part du bien que tu es.
Alors, cantillation, qui permet aussi donc d'entendre cette différence, cette altérité dont vous venez parler. Et donc, c'est, je crois, bienvenu d'entendre quelque chose. Vous allez être surpris du choix que j'ai fait. Ou pas d'ailleurs.
À toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel.
Alors, monsieur le rabbin de France, après la citation de Tintin, voici Brassens.
C'est bien aussi.
C'est très bien aussi. Et vous avez vu cette correspondance,
oui,
bienvenue.
Avec le pain et l'étranger, parce que n'oublions jamais que dans la Bible, on a l'obligation d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, d'aimer l'étranger, car tu as été étranger en Égypte. Il n'y a pas marqué d'aimer ses parents. Il y a marqué craindre ses parents,
honorer,
respecter ses parents, mais pas aimer. Et là, elle est à toi cette chanson, toi l'étranger. Ça tombe parfaitement bien avec Pâques, parce que c'est le moment où on se rappelle qu'on est étranger. La soirée de Pâques est un moment incroyable, qui n'est pas de l'auto-congratulation, nous sommes les plus forts, les plus beaux, on commence plutôt mal. Un, on était esclaves en Égypte, et si on va chercher un peu plus loin, nos ancêtres étaient idolâtres. Donc c'est une façon de voir le monde avec beaucoup de modestie.
À travers l'histoire, il y a quelque chose qui est récurrent, et je pense à ce passage de la Haggadah qui commence par la phrase « Ve'ish et Amda » qui dit « C'est elle qui a soutenu nos pères et nous-mêmes, car ce n'est pas un seul ennemi qui s'est dressé contre nous pour nous exterminer. À chaque génération, on tente de nous anéantir. » Et j'ai l'impression que la soirée du Seder, ces questions qu'on va poser, posent aussi la question de l'antisémitisme, de son évolution. Dans les époques anciennes, ce fut l'anti-judaïsme. Aujourd'hui, l'antisémitisme se déguise souvent en antisionisme. Pendant des siècles, Pessah fut le point d'orgue de cet antisémitisme, l'occasion d'accusations diverses, dont le célèbre meurtre rituel, accusation encore vivace, il faut le savoir, dans les mentalités populaires en Europe de l'Est. N'y a-t-il pas... Et je me disais, par exemple, aujourd'hui, en Hongrie, en Pologne, il y a une recrudescence de l'antisémitisme. Je pensais à ce film « Ida ». Qui est passé à la télévision polonaise, et il fut précédé, c'était tout à fait récemment, par un avertissement que c'est un film orienté qui présentait une propagande juive anti-polonaise.
Je connais ce film.
Oui.
Je pense que, d'abord, ça touche à quelque chose de très beau,
oui,
très pur, cette sorte de sortie du monde par l'entrée dans la vie des faibles, les plus faibles. Bon, je vais pas vous parler de Saint François d'Assise, mais ça ressemble un peu à ce qu'on retrouve dans toutes les religions. Dans le judaïsme, on a une vision un petit peu différente. C'est que c'est pas en sortant du monde, en rentrant dans la vie des autres, c'est faire venir les autres à notre vie. C'est l'idée de soir de Pessah. On dit pas on va mettre notre table dehors. On aurait pu le faire. comme on met bien la lumière de Hanouka dehors.
Oui.
Là, on ne dit pas, on va mettre une table dehors pour les pauvres. On dit aux pauvres, tu sais, allez, viens à la maison. Viens. Ta table, c'est ma table. Si j'osais, ce n'était pas prévu, mais je lirais un passage incroyable dans, Jean Valjean, c'est-à-dire dans Les Misérables. Les Misérables, c'est probablement le plus beau livre de l'histoire. Et dans la version de 1921, page 85, c'est important de donner les pages, comme dans le Talmud. Jean Valjean est... au tout début de l'histoire, il vole les chandeliers de l'évêque de Digne. J'étais à Digne il y a 2 semaines, donc j'ai vu son successeur, qui est mon ami, Monseigneur Di Falco. Donc Jean Valjean vole les chandeliers de l'évêque de Digne, il s'en va, et les gendarmes le rattrapent, l'emmènent à l'évêque en se disant « l'évêque va le dénoncer, on va lui faire la peau ». Là-dessus, l'évêque dit aux gendarmes « pas du tout, mais non seulement c'est à lui, mais il y en a d'autres qu'il a oublié en partant ». Alors, il est surpris, et Jean Valjean est surpris, et l'évêque, écoutez bien ce que l'évêque lui dit. « Tout ce qui est ici est à vous. Qu'ai-je besoin de savoir votre nom ? D'ailleurs, avant que vous ne me le disiez, vous en avez un que je savais. L'homme ouvrit des yeux étonnés. Vrai ? Vous saviez comment je m'appelle ? Oui, répondit l'évêque. Vous vous appelez mon frère. » Et en fait, Pâques, Pessah, c'est le moment où on dit à tout le monde, « Venez, venez, ce qu'on vit, on va le partager. » Alors, ce film, ce qui peut se passer en Europe de l'Est, toujours le pondérer avec la longueur du temps de l'histoire. Quand on étudie la loi juive, on l'étudie en gros sur 2 rabbins. Rabbi Yosef Karo, qui était en Espagne, puis qui a été transféré, parce que c'est la saison du Mercato, il était transféré à Safed, et Rabbi Moshe Isserles, qui était à Cracovie. C'est-à-dire que les juifs du monde entier s'appuient sur la sagesse développée par un rabbin polonais. Un rabbin espagnol et un rabbin polonais. Le musée de l'histoire du judaïsme en Pologne, qui est à Varsovie, qui s'appelle Pauline, qui dans le nom même de la Pologne se traduit, se décompose par Po, ici, Lin, résine, renvoie à l'idée que pendant 1000 ans, il y a eu une sorte de convergence de vocations et que le prince polonais, et la Hongrie, je pense évidemment à quelqu'un qui était comme mon père, Marie Lodge, qui m'a tant parlé de la Hongrie, avec des moments difficiles dans l'histoire, mais avec des moments où le judaïsme a pu s'épanouir. Je vous parle de la Hongrie, mais parlons de la Transylvanie, avec des villes aussi éminentes que Sziget, Temesvaros, enfin, des endroits où il y a eu Satmar, où il y a eu tant et tant de foisonnement de l'esprit de la Torah et du judaïsme. Mais je pense que cette recrudescence d'antisémitisme, elle ne doit pas nous étonner. C'est pour ça que le soir de Pâques, le moment où on célèbre notre liberté, on dit mais cette liberté, c'est une difficile conquête. Ce n'est pas un état nominal, parfait. C'est un état toujours à gagner. Et la meilleure des preuves, on nous dit, tu es heureux, tu es libre, eh ben, je vais te donner une mauvaise nouvelle. À chaque génération, il y aura quelqu'un qui va se lever un matin en se disant, cette fois-ci, je vais les exterminer. Ve'akadosh baruch hu matzilenu miyadam. Et l'Éternel nous sauve de leurs mains. C'est-à-dire que la Providence nous pousse à être nous-mêmes sans abandonner ce que nous sommes. Parce que c'est pas en abandonnant ce que nous sommes que nous serons ce que les autres veulent que nous soyons. On doit rester nous-mêmes. Et c'est en cela que Dieu nous sauve. Il nous permet de traverser l'histoire de manière incroyable. Je parlais de Tintin tout à l'heure. Les Mayas, les Incas, vous vous demandez où ils sont. Vous voyez Chapultepec, Teotihuacan, mais vous voyez pas un quart d'Inca. Les Hébreux sont toujours là. Il y a peut-être plus le temple de Salomon, mais les Hébreux sont là. Comme disaient nos amis Estamosaki. Nous sommes ici. Nous sommes là. Et je crois que c'est cette présence au monde qui est ce qu'on va célébrer à Pessah. Et c'est ça, en fait, le pain, la question du pain. Parce que si vous voulez être très honnête, vous devez légèrement corriger ce qu'a raconté notre ami dans son livre. Ce n'est pas, et c'est aussi ce qu'on apprend au Talmud Torah. Et c'est en pensant à ça que je vous ai posé comme une affirmation tout à l'heure. Ce qu'on apprend de manière simple, on oublie de le relire au sens de la critique, c'est-à-dire de ce qu'on apprend ensuite, et on pense être une vérité absolue. Ce n'est pas parce que les Hébreux sont sortis à toute vitesse que le pain n'a pas pu monter. Parce qu'avant même qu'il ne sorte, Dieu leur a dit « Et vous aurez un pain de misère. » C'est donc parce qu'on a voulu faire un pain comme ça, qui ne soit qu'un pain de nourriture et pas un pain de confort, pour apprendre qu'il y a une difficile liberté d'être juif.
Comme disait Lévinas, difficile Exactement. Liberté. Alors vous citez le pain, on en a beaucoup parlé, vous avez parlé du frère.
Et Lévinas, pardon.
Oui.
Lévinas. L'acmé de l'anti-judaïsme en France, l'antisémitisme, pratiquement d'État en France, d'État, c'est l'affaire Dreyfus. Il y a deux acmés en France, l'affaire Dreyfus et le statut des Juifs de 40. L'affaire Dreyfus, l'acmé de cette façon que un système d'État a de prendre un bouc émissaire qui est un juif et de dire il est fautif parce que juif, l'antisémitisme. À ce moment-là, en Lituanie, le père de Lévinas dit un pays qui se déchire en deux pour l'honneur perdu d'un pauvre petit capitaine juif est un pays où un juif doit vivre. C'est-à-dire que du cœur de la nuit, c'est-à-dire du cœur de ce qui est sombre, lui, il avait cette espérance spirituelle qu'il y a quelque chose, parce qu'il y a la moitié des Français qui se battent pour l'honneur de ce capitaine, alors qu'ailleurs, on n'aurait peut-être même pas eu une ligne dans un journal. C'est quelque chose de banal. Donc, moi, je dis que pour aujourd'hui, comment Pessah est une leçon pour nous aujourd'hui, c'est que d'abord, c'est pas un mouvement nouveau, c'est un mouvement récurrent dans l'histoire du monde, et on nous prévient dès qu'on sort d'Égypte. Vous allez être un peuple formidable, mais voilà ce que vous allez être comme peuple. Ok, on accepte, on assume. Et deuxièmement, le judaïsme est capable, au cœur de ce qu'il est, de trouver toujours une forme d'espérance. C'est ce que disait Tristan Bernard de manière incroyablement prophétique pour aujourd'hui. Quand il se fait arrêter par la Gestapo, il dit à sa famille « Jusqu'à maintenant, nous vivions dans la crainte. Maintenant, nous vivons dans l'espoir. » Donc en fait, ce qui objectivement pourrait être une situation, et est une situation catastrophique, difficile, doit toujours être le moment où on va instiller le ferment du relèvement de l'histoire. En gros, c'est l'histoire du pain. Vous faites la pâte, vous la pétrissez, vous la travaillez, puis ça monte pas. Et vous dites, je vais donner du temps, c'est-à-dire que je vais attendre un peu, mais je vais espérer. Et quand vous espérez, en fait, ce pain se nourrit de cette espérance. Vous allez me dire, il se nourrit des enzymes du travail. Ok, amenez-moi un chimiste, il vous le confirmera mieux que moi. Mais je pense que ce pain se nourrit de notre espérance. Le pain viendra. Et à un moment, on rencontre l'espérance des hommes et la volonté de Dieu. C'est là que ça se passe. Et c'est la Pessah.
Alors, cette poésie du pain rejoint magnifiquement l'étymologie même du pain. Vous avez évoqué le frère. Les gens qui font de l'étymologie font remarquer que bread en anglais, brot en allemand et brother et bruder sont de la même racine. C'est-à-dire que il y a du pain que dans ce partage que
et
vous brouté, avez évoqué.
Et brouté pour les vaches. Je trouve que qu'est-ce que ça vient faire brouté pour les vaches.
Justement, alors peut-être ensuite pour la rumination et
je pense qu'il y a plus de convergence entre le français et l'hébreu. Entre l'hébreu et l'allemand. Je sais pas pourquoi.
Alors, sur cette intuition, moi, je me demande, en vous écoutant, vous avez parlé de votre ami l'évêque Di Falco, Monseigneur Di Falco. Je me suis demandé, est-ce que le dialogue interreligieux et le rapprochement avec le christianisme, dont vous êtes l'un des acteurs majeurs aujourd'hui, est peut-être une chance pour combattre cet antisémitisme populaire et politique dont on vient de parler. Et la question qui est corollaire, comment concrètement cela peut se traduire dans le champ politique et éducatif, Monsieur le Grand Rabbin?
C'est une vraie question et je trouve que il y a des efforts qui sont faits de manière incroyable partout dans le monde. J'ai été reçu par l'ambassadrice d'Autriche il y a quelques jours où elle m'a organisé un petit déjeuner avec l'ensemble des ambassadeurs européens, un grand nombre en tout cas d'ambassadeurs européens. Puis quelques jours après avec des étudiants, des jeunes étudiants à Sciences Po. Et j'ai trouvé un questionnement, un partage d'espérance incroyable. Beaucoup de jeunes étudiants autrichiens viennent découvrir le monde, la France en particulier, l'Europe, et qui se construisent dans la recherche de l'autre. C'est-à-dire dans peut-être l'accomplissement de la parole du CEDER, de la soirée de Pâques, Manishtana. Quelle différence entre toi et moi? Dans ce Manishtana, on dit qu'il y a une différence. Et eux, j'étais ému de les voir se dire, oui, il y a une différence. Et alors, on est frères tout de même. Je parlais de l'Allemagne. Je suis très injuste avec l'Allemagne parce que il y a un ambassadeur d'Allemagne en France qui est formidable. Et ça, la femme qui l'avait précédé avait un tropisme incroyable pour Israël. Elle avait appris l'hébreu dans une recherche de sens et avec une humanité extraordinaire. Et je pense que c'est cela, la véritable humanité que Pessah nous propose. C'est de dire, tu pourrais être dominé par tes préjugés sur les uns ou les autres. On a tous des préjugés. Tu sais, mets-toi à table avec quelqu'un avec qui tu as été préjugé et tu verras que tous ces préjugés tombent parce que tu deviens copain. Tu partages le pain. Le pain, c'est tu partages cette espérance que le temps va améliorer les choses, va faire gonfler la pâte, va en faire monter les choses. En fait, on pourrait vous dire que symboliquement, il y a l'idée de la chute, alors que le pain, c'est l'idée de la pâte qui monte. Alors on pourrait dire, mais pourquoi c'est interdit à Pâques? Parce que c'est en même temps, il ne faut pas que ça monte trop comme une forme d'orgueil qui me pousse à écraser les autres. Quand on veut donner de l'espace à l'autre, il y a toujours de la place. C'est ce que nous dit la soirée de Pâques. Dominez vos préjugés, quels qu'ils soient. Et nous avons aussi, nous sommes aussi, dans le judaïsme, porteurs de préjugés. Voilà, par exemple, par les dialogues interreligieux, pourquoi j'ai demandé à ce que dans les écoles juives, on fasse venir des prêtres, des pasteurs et des imams pour que nos jeunes puissent rencontrer d'autres cultes. Et que ça se décline ensuite dans toutes les écoles publiques. Mais je crois que Pessah, c'est ça. Faites tomber les préjugés et ne voyez que la capacité à devenir des frères et à partager cette table de la manière la plus large qui soit. C'est ça, la vocation de Pessah.
Merci, monsieur Leroy Rabin de France, pour cette éclairante, sérieuse, mais joyeuse conversation. Je vous souhaite à vous, ainsi qu'à tous les auditeurs, votre famille, une bonne fête de Pessah, de belles nuits pascales, et comme le dit la tradition, de gravir de degré en degré la montagne de la sagesse, qui conduit à une autre nuit, celle de l'étude, mais c'est déjà une autre histoire, et surtout, qui sera le moment de ce partage de la fraternité que vous venez d'évoquer, qui va faire naître et grandir l'espérance. Merci encore.
Bonne fête de Pessah.
Merci encore. Merci. C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin, préparée avec Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui, Cédric Châtelus, à la réalisation, Dany Journeau, Coltouve, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous, Chag Sameach, bonne fête et à la semaine prochaine.